La Bible révèle que la fin de toutes choses est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ.
Je vous inviterai à lire, ou du moins à relire, en cet instant, la quatrième parole de l'Alliance de Dieu, telle qu'elle se trouve en Apocalypse chapitre 20. Alors, je vous invite à ouvrir avec moi vos Bibles en Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20. Et considérons-y là le quatrième commandement. Où nous lisons à partir du verset 8. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucune œuvre en ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car l'Éternel a fait en 6 jours les cieux et la terre, la mer et tout ce qui est en eux. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Lors de la première partie de l'étude de ce commandement, du quatrième, nous avons considéré les raisons pour lesquelles l'Éternel nous demande de nous rappeler du jour du sabbat. Et pendant la deuxième partie, nous avons examiné la définition biblique du jour ainsi que de la semaine. À la troisième partie, nous avons localisé ce jour au sein de la semaine de 7 jours. Et nous avons également là considéré la place ainsi que l'importance du 7e jour au sein de la loi de Dieu. Et aujourd'hui, durant cette quatrième et dernière présentation de la quatrième parole de l'Alliance, eh bien, nous allons considérer l'observation même du sabbat. Au verset 8, l'Éternel nous demande de nous souvenir du sabbat dans l'objectif de le sanctifier. Puis, il va détailler la signification. Il va en détailler la signification, telle qu'on peut commencer à le lire au verset 9. Tu travailleras 6 jours et tu feras toute ton œuvre. Certains pensent que ces paroles que nous venons de lire au verset 9 portent sur la durée minimum de travail hebdomadaire. C'est-à-dire que nous devons obligatoirement travailler pendant l'ensemble des 6 premiers jours de la semaine. Oui, ils pensent cela car Dieu dit « tu travailleras 6 jours ». Donc, il te faut travailler 6 jours. Tu dois travailler 6 jours. Si cette vision des choses est correcte, alors les enfants en bas âge ainsi que les femmes enceintes qui ne peuvent pas forcément travailler seraient de fait des transgresseurs de la loi. Et que dire des travailleurs qui ne pourraient pas prendre de vacances sous peine d'être eux aussi des transgresseurs? Sommes-nous obligés de travailler tous les 6 premiers jours de la semaine? Une considération attentive du verset dans son contexte nous montre qu'il s'agit là plutôt d'une permission ou devrais-je dire, d'une durée de travail limitée à 6 jours. En effet, le verset 10 commence en disant « mais le 7e jour ». Ok? Donc, par conséquent, en déclarant cela, Dieu nous fait comprendre que le temps que nous accordons à nos travaux et ouvrages, eh bien, ne doit pas excéder plus de 6 jours consécutifs. Et cela est un premier point. Un deuxième point, et une deuxième chose qui nous saute aux yeux, est qu'il y a deux actions, deux types, je dirais, d'œuvres qui sont mises en lumière dans le verset 9. Travailler et faire une œuvre. OK? Le terme traduit par travaillera, lorsqu'il est dit tu travailleras, eh bien, il vient de l'hébreu avad. Et le terme traduit par œuvre, lorsqu'il est dit au verset 9, et tu feras toute ton œuvre, eh bien, quant à lui, il vient de l'hébreu Blacha. Avad véhicule la notion d'exercer une œuvre mentale ou physique dans un but ou par nécessité. OK? Comme le fait d'occuper un emploi pour gagner sa vie. Voilà un exemple de cela. Mlaka, quant à lui, exprime la notion d'une activité destinée à faire ou à accomplir quelque chose. Donc, ce terme-là ne va pas forcément désigner ou ne va pas inclure le fait de faire quelque chose pour subvenir à ses besoins, mais ça peut être une autre œuvre, en fait. Une œuvre autre que celle-là. Et en termes de degré, Avad va être plus intensif, je dirais, en termes de degré dans le travail, dans l'œuvre, dans l'activité, Avad est plus intensif, je dirais, que Mlaka. OK? Donc, on a là une montée, en fait, dans le verset 9. Tu travailleras. OK? On a là une œuvre, une activité intensive. Tu travailleras 6 jours et tu feras toute ton œuvre. OK? Donc là, on monte de cran et c'est moins intensif. Donc voilà. Et la différence entre ces deux termes, donc avad et mlaka, comme pour résumer en fait, est que le premier a une connotation servile, tandis que le deuxième ne l'a pas. OK? Ainsi, les travaux destinés à subvenir à nos besoins, tout comme les ouvrages de moindre importance, doivent être réalisés lors des 6 premiers jours de la semaine. Et c'est ce que les enfants d'Israël ont appliqué pendant les 40 années où ils ont mangé de la manne. Ils sortaient, en effet, les 6 premiers jours de la semaine afin de ramasser la manne. Donc, ce que l'on pourrait assimiler à Avad, okay? C'est-à-dire une œuvre servile. Puis, ils rentraient chez eux afin de la cuisiner, okay? Ce que l'on pourrait assimiler à une œuvre à Mlaka. Okay? Et considérons à présent Exode chapitre 20, verset 10. Mais le 7e jour est le repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucune œuvre en ce jour-là. Arrêtons-nous ici. Quand arrive le septième jour, Dieu demande à ce qu'aucune œuvre, mlaka, c'est le même terme que nous avons ici, ok, qu'aucune œuvre ne soit faite. Et étant donné que les œuvres mlaka sont proscrites, il s'ensuit que celles qui sont le fruit d'Avad, celles qui sont serviles, sont, eh bien, de fait, également, elles sont également proscrites. Mais je voudrais vous poser une question. Est-ce que toutes les œuvres sont absolument proscrites? Toutes œuvres sont-elles dans l'absolu proscrites? Est-il, par exemple, interdit de soigner un malade ou de secourir un animal le jour du sabbat? Car il s'agit là d'œuvres qui sont plus que nécessaires. Il s'agit là d'œuvres qui sont vitales même, mes amis. Alors, de nouveau, de telles œuvres sont-elles proscrites par le quatrième commandement? Considérons la suite du verset 10, là qu'elle nous adresse la liste des êtres devant observer le jour du sabbat. Ok? Donc, tu ne te feras aucune œuvre en ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Ok? Donc, on a là cette entité qui sont présentées, cette catégorie d'êtres vivants, je dirais, qui nous sont présentées. D'accord? Mes amis, parmi les êtres concernés par l'observation du sabbat, Dieu inclut les êtres humains qui sont sous notre responsabilité. Enfants, okay, serviteurs, servantes, des gens qui vivent chez nous, qui sont étrangers, que ce soit à la foi, mais on pourrait également le comprendre. Dans le sens ici, dans le texte, c'est étranger à la foi, dans le sens premier du texte. Mais on pourrait également le comprendre, étranger à la famille également. Mais il n'y a pas que cela. Il n'y a pas que cela. Il y a également nos animaux. D'accord? Et je ne vous le souhaite pas, mais imaginons que l'une des personnes sous votre responsabilité soit malade. Pensez-vous que cette personne puisse véritablement observer le sabbat si elle ne reçoit pas ses soins? Je veux dire, le fait que on ne s'occupe pas d'elle, qu'on ne la soigne pas durant le jour du sabbat, est-ce que vous pensez que cette action-là va permettre à cette personne-là de véritablement observer le sabbat? Et idem pour un animal. Pensez-vous qu'il puisse observer le sabbat si on ne subvient pas à ses besoins? Nous ne pourrons jamais répondre à toutes ces questions si nous n'identifions pas d'abord l'objectif du sabbat. Considérons l'objectif du sabbat en Exode chapitre 23, verset 12. Exode chapitre 23 et au verset 12. Exode 23, verset 12. 6 jours durant, tu feras ton ouvrage, mais au septième jour, tu te reposeras, afin que ton bœuf et ton âne se reposent et que le fils de ta servante et l'étranger reprennent des forces. Le terme que Osterwald, le traducteur de la Bible que j'ai, eh bien, a traduit au verset 17 par « reprennent des forces » vient du verbe hébreu « nipash ». De manière littérale, Nipash peut signifier souffler, reprendre souffle, rafraîchir ou être rafraîchi. D'accord? Et voilà l'objectif, mes amis, du jour du sabbat. C'est de pouvoir reprendre souffle, d'être rafraîchi. Mais pouvez-vous reprendre souffle ou être rafraîchi dans la souffrance ou dans la maladie? Je veux dire, pouvez-vous reprendre souffle et être rafraîchi si pendant le sabbat, personne ne vous soulage ou ne vous guérit? Il est clair que non. Mais ce n'est pas ainsi que tous les Juifs du temps de Jésus voyaient les choses. En effet, rendons-nous en Luc chapitre 13 et au verset 10. Et lisons à partir du verset 10 tout du moins. Où allons-nous? Luc, c'est cela, chapitre 13, à partir du verset 10. Luc chapitre 13, et lisons à partir du verset 10. Comme Jésus enseignait dans une synagogue un jour de sabbat, il se trouvait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait malade depuis 18 ans et qui était courbée en sorte qu'elle ne pouvait point du tout se redresser. Jésus, la voyant, l'appela et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ta maladie. » Et il lui imposa les mains, et à l'instant, elle fut redressée, et elle donna gloire à Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait fait une guérison un jour de sabbat, prit la parole et dit au peuple, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc ces jours-là pour être guéris, et non pas le jour du sabbat. » Mais le Seigneur lui répondit, « Hypocrite, chacun de vous ne détache-t-il pas son bœuf ou son âne de la crèche le jour du sabbat et ne le mène-t-il pas à l'abreuvoir? Et ne fallait-il point, en un jour de sabbat, détacher de cette chaîne cette fille d'Abraham que Satan tenait liée depuis 18 ans? Comme il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et tout le peuple se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Ainsi, soulager un animal ou guérir un malade ne constitue pas une violation du sabbat, contrairement à ce que pensait ce leader juif, mais également, contrairement à ce que pensent les leaders de ce que l'on appelle le christianisme moderne, qui, eux, sont contre l'observation du sabbat du 7e jour. Mes amis, Luc 13, versets 10 à 17, n'est pas une preuve que Jésus a aboli le sabbat, pas plus que Marc, chapitre 2, versets 23 à 28. Je vous invite à vous rendre avec moi dans l'Évangile selon Marc au chapitre 2. Marc, Évangile selon Marc, chapitre 2, verset 23. À partir du verset 23, et nous lirons jusqu'à la fin de ce chapitre. Marc 2, verset 23 jusqu'au verset 28, où nous lisons, et il arriva, comme Jésus passait par les blés un jour de sabbat, que ses disciples, en marchant, se mirent à arracher les épis. Et les pharisiens lui dirent, « Regarde, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis dans les jours de sabbat ?» Mais il leur dit, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David quand il fut dans la nécessité et qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui ? Comment il entra dans la maison de Dieu ?» au temps d'Abiatar, souverain sacrificateur, et mangea les pains de proposition qu'il n'était permis de manger qu'au sacrificateur et en donna aussi à ceux qui étaient avec lui. Puis il leur dit, « Le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Ainsi, le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » L'événement que Marc nous décrit ici est riche d'informations concernant l'esprit de la véritable observation du sabbat. Remarquez tout d'abord que ce sont les pharisiens et non pas Jésus qui accusent les disciples du maître du sabbat de transgresser son saint jour. Remarquez ensuite que Jésus leur répond en assimilant le caractère de l'action de ses disciples au caractère nécessaire de l'action du roi David. Et Matthieu 12, versets 1 à 8, nous apporte un complément d'informations sur cet événement. En effet, rendons-nous dans la portion parallèle dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 12 et au verset, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Matthieu, chapitre 12, verset 1 jusqu'au verset 8. Et lisons là un récit parallèle à ce que nous venons de lire en Marc, de manière à avoir des informations complémentaires sur cet événement, pour bien saisir l'esprit de l'observation du sabbat, en fait, que Jésus était en train d'exposer ici. Matthieu 12, versets 1 à 8. En ce temps-là, Jésus passait par des blés, ma version dit, un jour de sabbat. Et ses disciples, ayant faim, se mirent à arracher des épis et à en manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent, « Voilà tes disciples qui font ce qu'il n'est pas permis de faire le jour du sabbat. » Mais il leur dit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David, ayant faim, tant lui que ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition dont il n'était pas permis de manger, ni à lui, ni à ceux qui étaient avec lui, mais au seul sacrificateur? Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les sacrificateurs, au jour du sabbat, violent le sabbat dans le temple sans être coupables? Or, je vous dis qu'il y a ici quelqu'un qui est plus grand que le temple. Que si vous saviez ce que signifie « je veux la miséricorde et non le sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents. Car le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Ce que le maître du sabbat était en train d'expliquer aux pharisiens était que les actes de nécessité ne pouvant pas être effectués durant les 6 premiers jours de la semaine sont permis durant le jour du sabbat. Et mes amis, si tel n'était pas le cas, alors, ceux d'entre nous qui se chauffent au bois auraient, de ce fait, à passer les jours de sabbat d'hiver dans le froid. Et oui, parce que vous ne pouvez pas allumer de feu si vous suivez la pensée des pharisiens. Vous ne pouvez pas allumer de feu, mes amis. Pourtant, hypocrites comme ils sont, Ils étaient d'avis, en fait, avec le leader de la synagogue qu'on a vu dans tout à l'heure pour donner à boire aux animaux. Mais quand il s'agit de prendre soin des gens, quand il s'agit de subvenir à sa faim, alors que vous êtes simplement en train de vous promener, vous vous rendez compte? Vous êtes en train de vous promener et puis vous avez faim. Vous avez du blé qui est là, ou par exemple, vous avez un pommier qui est là. Selon ces personnes-là, vous n'aviez même pas le droit de cueillir la pomme et de la manger, en fait. C'était une transgression du sabbat. Ce n'est même pas pour vous dire que les disciples se sont mis à moissonner le champ. Même pas pour vous dire qu'ils se sont mis à prendre du blé pour le faire cuire. Ils ont juste mangé sa crouille comme ça. Le problème ici, mes amis, c'était la vision des Juifs. C'était toutes les traditions. Ainsi, loin d'avoir aboli le quatrième commandement par son exemple, Jésus l'a dépouillé des traditions avec lesquelles les Juifs l'avaient habillé. Revenons maintenant à l'objectif du sabbat. En considérant ce que Dieu expérimenta lorsqu'il observa le septième jour. Pour ce faire, rendons-nous en Exode 31, versets 12 à 17. Où allons-nous? En Exode, chapitre 31, versets 12 à 17. Exode 31, versets 12 à 17. Et là, nous lisons. L'Éternel parla encore à Moïse en disant, « Et toi, parle aux enfants d'Israël et dis, seulement vous observerez mes sabbats, car c'est un signe entre moi et vous dans toutes vos générations, afin qu'on sache que c'est moi, l'Éternel, qui vous sanctifie. Observez donc le sabbat, car c'est pour vous un jour saint. Ceux qui le profaneront seront punis de mort. Si quelqu'un fait une œuvre en ce jour, cette personne-là sera retranchée du milieu de ses peuples. On travaillera pendant 6 jours, mais au septième jour, ce sera le sabbat du repos consacré à l'Éternel. Quiconque fera une œuvre le jour du sabbat sera puni de mort. Ainsi, les enfants d'Israël observeront le sabbat pour célébrer le sabbat dans toute leur génération comme une alliance perpétuelle. C'est un signe entre moi et les enfants d'Israël à perpétuité, car l'Éternel a fait en 6 jours les cieux et la terre, mais au septième jour, il a cessé et s'est reposé. Lors de la présentation précédente, nous avons considéré ces versets pour établir que le sabbat était bel et bien l'instrument du scellement. Okay. Considérons à présent un autre aspect. Le terme que Osterwald a traduit au verset 17 par « s'est reposé » vient du verbe hébreu « nipash », verbe que nous avons vu tout à l'heure en Exode 23. Comme nous l'avons vu, de manière littérale, mes amis, nipash peut signifier souffler, reprendre souffle, rafraîchir ou être rafraîchi. Et la traduction de Darby sur ce point est très pertinente. En effet, dans la version de Darby, nous lisons Exode 31, 17 comme suit. C'est un signe entre moi et les enfants d'Israël, à toujours, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le septième jour, il s'est reposé et a été rafraîchi. OK? Remarquez que, prenez toutes les versions de la Bible en français, de Exode 23, je crois qu'on a pris Exode 23 tout à l'heure, verset 12, où on a dit que pour reprendre des forces, je vous le confirme, c'est ça, reprendre des forces. Là, on a Nipash, Exode 3, verset 22. Et quasiment toutes les versions de la Bible francophone vont vous retranscrire la signification littérale de Nipash. Okay? Par contre, lorsque Nipash est attribué à Dieu, eh bien, vous n'avez pas beaucoup de Bibles, mes amis. Vous n'avez peut-être que 2 versions parmi celles que j'ai pu consulter. C'est la Summer et la Darby. Je n'ai pas consulté Crampon, il faudrait vérifier. Mais qui vous retransmettent que Dieu a été rafraîchi. Okay? C'est ce concept-là, qu'il a repris souffle, qu'il a été rafraîchi. Pourquoi les traducteurs ne veulent pas retranscrire ce mot-là, en fait? Parce qu'il s'agit là d'un anthropomorphisme, c'est-à-dire qu'on attribue des traits humains à la divinité. En effet, comment Dieu a-t-il pu reprendre souffle ou être rafraîchi quand en Ésaïe 40, verset 28, on nous dit qu'il ne se fatigue pas? La vérité ici, mes amis, est que le rafraîchissement qu'apporte le sabbat du septième jour est bien plus qu'un rafraîchissement physique. Voilà ce que beaucoup de personnes n'ont pas perçu, en fait. Cela est bien plus qu'un rafraîchissement physique. Considérons Deutéronome, chapitre 5, versets 12 à 15. Et nous avons là une réitération du sabbat du quatrième commandement qui est faite par Moïse cette fois-ci. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Deutéronome, chapitre 5, versets 12 à 15. Deutéronome, chapitre 5, versets 12 à 15. Deutéronome, chapitre 5, versets 12 à 15. Et là, nous lisons que « Observe le jour du repos pour le sanctifier, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a commandé. Tu travailleras 6 jours et tu feras toute ton œuvre. Mais le 7e jour est le repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucune œuvre en ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni ton étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Et souviens-toi que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a retiré à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a commandé d'observer le jour du repos. » Mes amis, de manière générale, cette réitération du quatrième commandement que nous avons ici, eh bien, elle est similaire, je dis bien en général, elle est similaire à ce que nous avons en Exode. Bien qu'il y ait « observe » à la place de « souviens-toi », cependant, nous avons là une différence. On nous dit « observe », alors qu'en Exode 20, on nous dit « souviens-toi ». Mais il y a quelque chose, mes amis, qui diffère. Il y a quelque chose qui diffère. Et ce qui diffère, c'est la raison qui est avancée pour l'observation du sabbat. La raison avancée pour l'observation du sabbat, mes amis, en Deutéronome, est complètement différente qu'en Exode. En effet, Exode 20, verset 11, présente le commandement du sabbat comme étant une commémoration de l'exemple de l'Éternel. C'est-à-dire du fait qu'il se soit lui-même reposé. Tandis que Deutéronome 5, verset 15, le présente comme étant une commémoration de la délivrance d'Israël de l'esclavage. Nous avons là, ici, deux notions que véhiculent deux notions que véhicule le sabbat, en fait. Nous avons la commémoration de la création et la commémoration, mes amis, de la rédemption. Car l'esclavage duquel les enfants d'Israël ont été libérés d'Égypte est un symbole, mes amis, de la libération de l'esclavage du péché. Cela veut dire que, mes amis, le péché, c'est bien la transgression de la loi. Et lorsque Dieu nous libère d'une vie de péché, c'est bel et bien pour nous faire observer sa loi. Vous comprenez? Ça veut dire que tous ceux qui sont véritablement libres en Jésus, libérés du péché. Ce sont véritablement ceux qui observent le sabbat, mes amis. Ainsi, le sabbat est pour nous le moyen de commémorer la création, mais également la rédemption, le repos que nous avons en Jésus, où nous mettons de côté les œuvres de la chair et nous avons part d'une manière toute particulière au fruit de l'esprit. Voilà ce que le sabbat va, ce vers quoi le sabbat va nous porter. Ce que le sabbat va nous permettre de commémorer, mes amis. Et il nous faut savoir une chose, c'est que la rédemption est une recréation, mes amis. La rédemption est une création, mais la rédemption est une recréation. Puisque racheter l'humanité, eh bien, cela implique de recréer en l'homme un cœur pur. Crée en moi un cœur pur. Mets en moi un esprit bien disposé, comme dit le psalmiste dans le psaume. Donc, la rédemption est bel et bien une création, mes amis. Une recréation. Et comment a lieu cette recréation? En répondant à cette question, nous allons répondre à la question que nous sommes posée tout à l'heure concernant le rafraîchissement. Comment a lieu cette recréation? Comment Dieu opère cela? Je vous invite à vous rendre avec moi en Actes, chapitre 3, verset 19. Actes des apôtres, chapitre 3. Et considérons là le verset 19 et le verset 20. Et là, Pierre déclare, dans Actes, chapitre 3, verset 19 et 20, « Repentez-vous donc et vous convertissez, afin que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » Et qu'il vous envoie celui qui vous a été annoncé auparavant, le Christ Jésus. Et lisons maintenant Acte 2, verset 38. Acte 2, verset 38. Et là, Pierre, il déclare, ici, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » La réception du don de l'Esprit dont Pierre parle ici, eh bien, cela est le rafraîchissement dont il parle au chapitre suivant. Revenons en acte 3 et au verset 19 et 20. En acte 3 et au verset 19, plus précisément, ce qu'Osterwald a traduit par le terme « par » lorsqu'il dit « des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur », eh bien, ce qu'Osterwald a traduit par le terme « par » vient du grec prosopon. Mes amis, de manière littérale, prosopon peut signifier visage, face et présence. C'est ce que nous avions vu, rappelez-vous, lorsque nous avons considéré le premier commandement et la partie numéro 1, devant ma face d'ailleurs. Et bien, c'est le même terme, prosopon, qu'on avait étudié ça. Alors, prosopon en grec, en hébreu c'était autre chose. Mais on l'avait considéré dans le Nouveau Testament, comment cela était utilisé, et c'est le même terme qui est ici, en fait. Vous vous rendez compte? OK. Ici, le rafraîchissement a lieu en présence du Seigneur. Ou si vous préférez, c'est la présence du Seigneur qui provoque ce rafraîchissement. Qui est ce Seigneur? Le verset 20 nous dit qu'il s'agit du Christ Jésus. Et qui est-ce qui nous envoie ce rafraîchissement? Le verset 20 nous dit que c'est « il ». Mais qui est ce « il » ? Le verset 18 et 22 nous disent que c'est Dieu. Mes amis, l'objectif du sabbat a toujours été d'être rafraîchi par la communion de l'Esprit que nous avons avec le Père et son Fils, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Et pour être rafraîchi en ce jour particulier, pour maintenir cette communion que nous devons avoir de manière toute particulière en ce saint jour avec Dieu le Père et son Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, dont je vous rappelle que Dieu a tout créé par Jésus. Et ça, on l'avait établi. On l'avait établi lors de la présentation du premier commandement. On avait pris les 7 textes qui nous montraient que Dieu avait tout créé par Jésus. Donc cela montre bien que la rédemption, c'est bien Dieu qui nous rachète, qui opère la rédemption par Jésus. Vous voyez? Donc je reprends. Et pour être rafraîchi en ce jour particulier, pour être rafraîchi par la communion de l'Esprit que nous avons, que nous devons avoir avec Dieu le Père, ainsi que son Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, bien mes amis, nous devons sanctifier le sabbat. Parce que c'est cela, mes amis. Dieu l'a voulu comme un temps pour avoir cette communion, un temps de communion bien particulier, pour justement commémorer l'œuvre de la création ainsi que de la rédemption. Nous devons sanctifier le sabbat, voyez-vous, selon ce qui nous est dit en Ésaïe 58, versets 12 à 14. Rendons-nous dans le livre du prophète Ésaïe et considérons le chapitre 58. Ésaïe 58, versets 12 à 14. Et là, on nous dit, « Les tiens rebâtiront les ruines antiques. Tu relèveras les fondements des anciens âges. On t'appellera le réparateur des brèches, le restaurateur des chemins qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied au jour du sabbat pour ne pas faire ta volonté dans mon saint jour, si tu appelles le sabbat tes délices et honorable, ce jour qui est consacré à l'Éternel. Si tu l'honores plutôt que de suivre tes voies, de faire ta volonté ou de dire des vaines paroles, alors tu trouveras tes délices en l'Éternel. Je te ferai passer par-dessus les hauteurs du pays et je te nourrirai de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. » Nous avons là une description approfondie de la manière dont nous devons sanctifier le sabbat. Il nous est parlé ici de retenir notre pied, mes amis. Si tu retiens ton pied au jour du sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, cela veut nous dire, c'est que nous devons nous abstenir de faire des déplacements inutiles, mes amis. Voyez-vous, par exemple, nous n'allons pas voyager. Je ne vais pas prendre un billet d'avion et voyager durant le jour du sabbat. Ça, je peux le faire. Je peux le faire un autre jour, par exemple. Il n'y a pas de... Nous devons exercer une certaine retenue durant le sabbat, de ne pas faire des choses qui sont inutiles pour justement profiter de cela. Parce que à beaucoup voyager durant le sabbat, on ne peut pas profiter de ce moment-là. Non pas que le voyage soit interdit. Les Juifs avaient une distance qu'ils appelaient le chemin de sabbat. Okay? Et donc, cette distance-là qui, approximativement, c'était pas très loin des 1 km, voilà. Eh bien, mes amis, ils pouvaient voyager. Mais ils avaient établi ça pour qu'ils n'en fassent pas trop, justement pour respecter, pour eh bien, pouvoir optimiser ce temps-là, pour de communion avec le Seigneur. Et il est parlé de faire ta volonté, faire ta volonté. Et ce terme-là revient à deux reprises dans le verset 13. Okay? En réalité, pour ne pas faire ta volonté, ici, le terme hébreu est au pluriel. D'accord? Et après, à la fin du verset, de faire ta volonté, là, il est au singulier. Okay? Alors, mais de quoi parlons-nous lorsqu'il est parlé de faire notre volonté? Okay? Eh bien, la réponse se trouve au verset 3 du même chapitre. Parce que le terme revient, le terme est employé ici pour la première fois dans ce chapitre. Et remarquez ce qu'il est dit. On peut même lire à partir du premier verset. « Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette, déclare à mon peuple leurs iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Car jour après jour, ils me cherchent et veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des jugements justes, ils veulent s'approcher de moi. Pourquoi avons-nous jeûné sans que tu y prises garde et affligé nos âmes sans que tu ne le connusses? Voici, dans votre jour de jeûne, vous avez fait votre volonté et vous traitez durement tous vos mercenaires. » Donc, on a là une description de ce que Dieu entend par faire sa volonté. D'accord? On a là la description de ce que Dieu entend par faire sa volonté. Remarquez ce qu'il est dit, même au verset suivant. Voici, vous jeûnez pour quereller et disputer et pour frapper du poing méchamment. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour pour que votre voix soit entendue en haut. OK? Voilà la volonté de nous devons nous abstenir, mes amis. Cela n'est pas compatible avec l'esprit du sabbat. Et si cela n'est pas compatible avec l'esprit du sabbat, mes amis, eh bien, certainement, on voit que cela n'est pas compatible avec le reste du temps, en fait. On ne doit pas non plus faire ces choses-là. En fait, ce que le texte veut nous dire, c'est que le sabbat est censé nous... La communion que nous avons, le rafraîchissement que nous avons avec le Seigneur durant ce jour-là est censé nous permettre de mettre de côté ces choses-là, en fait. Donc, de faire des voyages inutiles, de mettre de côté notre volonté, cela reprend également le fait de retenir notre pied durant le sabbat pour ne pas faire notre volonté. Cela sous-tend également le labeur, l'œuvre servile, le fait de gagner d'aller occuper un emploi pour gagner notre pain, comme on dit. Mais la proscription ne s'arrête pas là, puisque il continue en disant « Si tu appelles le sabbat et délice et honorable, ce qui est consacré à l'Éternel, si tu l'honores plutôt que de suivre tes voies, de faire ta volonté et de dire des vaines paroles. » Il y a là une chose que Dieu précise, c'est que ce n'est pas simplement en action, mes amis, c'est également en parole. Ce que Dieu veut nous dire ici, c'est que on doit faire attention au discours que l'on a et, in fine, aux pensées que l'on a, puisque ce que l'on pense, on l'exprime. Et donc, le fait d'exprimer des choses vaines qui sont contraires à l'esprit du sabbat, par exemple, le fait de parler de business ou d'affaires, je dirais. Le fait de même faire des plans, d'exprimer ses plans, de parler de choses avec un tiers durant le jour du sabbat, eh bien, cela va constituer une transgression du sabbat. Pourquoi? Puisque nous parlons de la chose et nous y pensons. Et mes amis, c'est le même principe que Jésus a employé. Jésus a dit que celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Et bien, c'est la même chose, mes amis. Si durant le jour du sabbat, nous pensons à notre travail, nous sommes dans le travail. Nous sommes déjà dans l'œuvre, en fait. On est déjà Donc, en fait, on a déjà transgressé. Vous vous rendez compte? C'est pour cela que nous devons veiller à nos paroles et par conséquent, veiller à nos pensées, à avoir vraiment des pensées qui sont élevées, des pensées qui ne sont pas basées sur nos œuvres, sur nos labeurs, mais des pensées qui sont basées sur les œuvres de Dieu, mes amis. De telle sorte à ce que nous aurons dans la bouche, eh bien, les paroles de Dieu, les paroles qui ne sont pas vaines, mais qui sont celles de Dieu, celles que Dieu veut que nous ayons. Et après, il est dit qu'on trouvera son délice en l'Éternel. Et puis après, qu'il nous fera passer par-dessus les hauteurs du pays et qu'il nous nourrira de l'héritage de Jacob. Cela fait allusion à ce que nous lisons en psaume 105. Psaume 105, verset 9. Verset 9 à 11. Psaume 105, verset 9 à 11. Où il est dit, même au verset 8, « Il se souvient à jamais de son alliance, de sa promesse établie, pour 1000 générations, du traité qu'il fit avec Abraham et du serment qu'il fit à Isaac et qu'il a confirmé à Jacob pour être un statut, à Israël pour être une alliance éternelle, disant, je te donnerai le pays de Canaan, c'est le lot de votre héritage. » Il y a quelque chose qu'il nous faut saisir ici. C'est que les patriarches, notamment Jacob, Israël, eh bien, lorsque le Seigneur leur dit le pays de Canaan, beaucoup de gens pensent qu'il s'agit de la terre d'Israël là-bas, terrestre. Beaucoup de gens pensent que c'est de cela dont Dieu voulait foncièrement parler, dans l'absolu. Et c'est pour cela qu'ils se battent jusqu'à aujourd'hui, pour ce bout de terre-là. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a des guerres. Parce qu'ils veulent la terre promise, la terre promise, la terre promise. La terre promise. Mes amis, c'est pas ce dont Dieu voulait parler. C'est pas ça. C'était pas ça. C'était pas ça le fond de l'affaire. La terre promise, mes amis, se trouve en Hébreux chapitre 11, verset 9 et 10. La terre promise que nous avons là, c'est un symbole, mes amis, de la terre promise, donc de la terre que Dieu avait promise. Hébreux 11, versets 9 à 10. Parlons de la foi. Paul déclare, verset 9, Hébreux 11, excusez-moi, je suis dans Romains, j'ai mal fait mon compte. Voilà, Hébreux 11, 9 et 10. Par la foi, il demeura dans la terre qui lui avait été promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes avec Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Verset 10. Car il attendait la cité qui a des fondements, dont Dieu est l'architecte et le fondateur. Mes amis, voilà ce que les patriarches attendaient. Voilà ce que les patriarches attendaient. C'est pour ça qu'ils habitaient sous des tentes. C'est pour ça que l'Éternel c'est ce que le Seigneur leur avait promis. Ainsi, lorsque en Ésaïe 58, Dieu déclare que il nous fera voir l'héritage de Jacob, ça veut dire que durant ce temps de communion que nous avons avec Dieu durant le sabbat, durant ce temps-là, mes amis, que nous avons en communion avec Dieu et l'agneau, Dieu et son Fils, ce temps de rafraîchissement, eh bien, mes amis, Dieu nous montre les merveilles de l'éternité durant ce temps-là, durant ce jour-là. Dieu nous montre les merveilles de la vie à venir. Et cela s'obtient par la foi. En effet, au verset 6, il est dit « Or, il est impossible de lui être agréable sans la foi, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Voyez-vous, c'est ce que le sabbat nous demande, de chercher Dieu, en fait. Ça veut dire que ce jour-là est, eh bien, est un jour particulier pour justement rechercher Dieu, de manière à faire de Dieu nos délices. Nous devons faire du sabbat nos délices, parce qu'en ce jour-là, nous avons le privilège et l'opportunité de pouvoir faire de Dieu nos délices d'une manière que nous ne le pouvons pas le reste de la semaine, mes amis. Okay? Et en faisant du sabbat nos délices, nous obtiendrons une expérience similaire à celle d'Asaph, laquelle est décrite au psaume 73, verset 25. Rendons-nous, et dans notre texte de conclusion, au psaume 73 et au verset 25. Psaume 73, et considérons là le verset 25. Et remarquez là, l'expérience que nous obtiendrons en faisant du sabbat nos délices, mes amis. Quel autre que toi ai-je au ciel? Je ne prends plaisir sur la terre qu'en toi. Je dis cela parce que ce sont les mêmes termes que nous avons ici, les mêmes termes hébreux que nous avons ici, ce sont les mêmes termes que nous voyons en Ésaïe 58, lorsqu'il est parlé de faire du Seigneur, eh bien, nos délices. Le fait de prendre plaisir, eh bien, c'est cela, mes amis. Le sabbat va nous rapprocher toujours plus près de Dieu. Et étant l'outil, l'instrument de la sanctification, en observant le sabbat, mes amis, nous marchons véritablement, attention, véritablement, non pas dans la forme, avec tous les préceptes. Si nous sommes comme des pharisiens, mes amis, à dire, faut pas que je fasse ci, faut pas que je fasse ça, et qu'on s'entoure des faux pas, des faux pas, des faux pas, des faux pas, eh bien, vous allez vite vous rendre compte que vous n'allez pas être dans l'esprit du sabbat, si vous arrivez à vous en rendre compte, mais vous allez surtout vous rendre compte que vous allez transgresser le sabbat. Parce qu'à force de mettre, à force de regarder à ce qu'il ne faut pas, ce qu'il ne faut pas, ce qu'il ne faut pas, on met tellement de restrictions qu'après on finit soi-même par transgresser le sabbat, sans même s'en rendre compte après. Tandis que si nous, vraiment, nous avons nos pensées fixées eh bien, sur l'éternité, nos pensées que nous maintenons vers le Seigneur, que par la foi nous recherchons le Seigneur durant en ce saint jour-là, mes amis. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons faire du sabbat nos délices. Et de ce fait, nous allons faire du Seigneur nos délices également. Et nous prendrons plaisir en lui et en lui seul. Et donc, par rapport au processus de sanctification, comme je disais, le sabbat étant l'outil, eh bien, l'observation du sabbat fera, la véritable observation du sabbat fera que nous progresserons dans la sanctification. Donc, il n'y a pas de doute à avoir là-dessus, mes amis. Il n'y a pas de sanctification véritable sans une véritable observation du sabbat. Il ne peut pas y avoir, nous ne pouvons pas expérimenter une sanctification véritable si nous n'observons pas véritablement le sabbat dans l'esprit dans lequel il doit être observé. Et nous avons vu l'esprit du sabbat en ce matin. Alors, ma prière pour vous et moi est que nous soyons à même eh bien, de nous souvenir du jour du sabbat. Durant les 6 jours de la semaine, jour 1, jour 2, jour 3, nous devons nous souvenir du jour du sabbat pour le sanctifier. Durant les 6 premiers jours de la semaine, on doit préparer ce moment-là. Parce que là, on n'accueille pas le jour du sabbat, mes amis. Ce n'est pas le sabbat qu'on salue. Lorsque le sabbat commence, on accueille le maître même du sabbat. On accueille celui qui nous rafraîchit, celui qui nous envoie le rafraîchissement et celui de qui vient le rafraîchissement. On accueille la divinité, mes amis. On accueille Dieu le Père ainsi que Jésus. Et cette présence-là qui nous rafraîchit. Voilà pourquoi pas de rafraîchissement possible pour nous, spirituellement parlant, bien évidemment physiquement, mais spirituellement parlant, le rafraîchissement ne sera pas possible si on n'est pas prêt à accueillir Dieu le Père ainsi que Jésus-Christ son Fils. Alors mes amis, Dieu désire nous rafraîchir, il désire vous rafraîchir. C'est pour cela que il nous invite à l'accueillir et à lui faire la place nécessaire, la place qu'il demande, toute la place qu'il demande durant le jour du sabbat, afin qu'il puisse nous rafraîchir.
Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.